béni, venons dans ta présence avec crainte et tremblement. On va lire dans Actes 27. Verset 21. Jusqu'à 25. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit, « Ô homme, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète avant d'éviter ce péril et ce dommage. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra et il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit, « Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô homme, assurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. » Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Pouvons nous asseoir. Avoir cette confiance en Dieu lorsque tout va mal. Plus rien n'allait. Un vent impétueux s'est mis à souffler. Le vent, ce sont les combats. Les combats que l'on a à livrer. Le vent, qu'on appelle Héraculon, qui s'est déchaîné sur l'île. Le navire n'a pas pu lutter contre le vent. Le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent. finalement, ils se sont laissés aller à la dérive. Ça, c'est ce qui arrive lorsqu'on est découragé. On a tout essayé, on s'est battu. On a encaissé des coups, on en a donné. Finalement, à un moment donné, on baisse les bras. On se laisse aller maintenant au gré du vent. Vous avez épuisé tous vos moyens. Dieu semble être lointain à ce moment-là. Tant que vous aurez vos moyens à utiliser, Dieu va toujours sembler lointain. Alors, il commence à décrire leur parcours. Nous passâmes au-dessous d'une petite île nommée Clauda et nous eûmes de la peine à nous rendre maîtres de la chaloupe. Même la chaloupe, ils n'en avaient plus la maîtrise. Après l'avoir hissée, on se servit des moyens de secours pour ceindre le navire. Ils avaient encore quelques moyens. Ils s'en sont servis. Et dans la crainte de tomber sur la Sirte, on abaissa les voiles. C'est ainsi qu'on se laissa emporter par le vent. Comme nous étions violemment battus par la tempête, le lendemain, on jeta la cargaison à la mer. Le troisième jour, nous y lançâmes de nos propres mains les agrès du navire. Ce sont les outils lourds, métalliques du navire qu'ils ont laissés, ils ont jetés dans la mer. Comme on le dit, comme on l'a souvent dit, un processus de sanctification qui s'ensuit. C'est à ce moment-là qu'on dit « Seigneur, je ne ferai plus ci, je ne ferai plus ça ». On jette ce qu'il faut jeter, tout ce qui nous rend lourds spirituellement, qui nous enfonce, n'est-ce pas, qui fait que nous noyons. C'est à ce moment-là qu'il faut voir ce que l'on a comme foi. C'est à ce moment-là que l'on voit si réellement cette confiance en Dieu, on l'a. Parce que souvent, on a confiance en Dieu quand on a encore des moyens. Mais une fois que les moyens ne sont plus là, cette confiance est-elle toujours là? Paul, apparemment, tout le navire était découragé. Seul Paul pouvait encore avoir confiance. C'est pourquoi il dit, j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Prendre un peu ça comme titre, même si c'est long. Comme il m'a été dit. J'ai cette confiance en Dieu comme il m'a été dit. La Bible, tout au long, nous demande de nous confier en l'Éternel, d'avoir confiance en lui. Et quand cette confiance nous est demandée, ce n'est pas seulement lorsque tout va bien, pas seulement lorsqu'on a les moyens. Il nourrit les petits oiseaux. C'est vrai, on dit amen, lorsqu'on sait qu'on a encore un petit reliquat sur le compte en banque et que l'on peut encore aller au supermarché ou au marché. Là, qui nourrit le petit oiseau, qui va me nourrir, ça ne fait aucun doute. Mais une fois que le compte en banque est complètement dégarni, quand la carte siffle, solde insuffisant, quand on fait toutes les poches, aucun billet oublié, est-ce qu'on se pose la question, qu'est-ce que je vais manger demain? Et si on a des enfants, qu'est-ce que les enfants vont manger? Ou bien vous vous dites, pas grave, j'ai confiance que Dieu prendra soin. C'est à ce moment-là que l'on montre ce que l'on a comme foi. Quand il n'y a plus rien, c'est là que Dieu intervient. Parce que sinon, vous allez dire, c'est grâce au billet de 20 euros que j'ai oublié qu'on a mangé aujourd'hui. Maintenant, si ce billet de 20 euros n'y est pas, Un peu comme cette femme, cette veuve qui a dit, ben, il me reste un petit peu de farine, c'est pour mon fils et moi. Nous allons faire un gâteau, nous mangeons et puis après, nous mourrons. Tant que Dieu est avec vous, vous ne pouvez pas mourir de faim. Faut avoir cette confiance-là. Et confiance en ce que Dieu dit. Dieu parle tantôt par sa parole, tantôt par des songes, tantôt, ici dans ce cas, avec Paul, par un messager, un ange. C'était un ange du Dieu à qui il appartenait. Et il a reconnu que c'était un ange. C'est une situation assez difficile de placer dans ce genre de situation sa confiance en Dieu. Et pourtant, Dieu nous montre qu'il est tout-puissant. Nous nous souvenons tous de nos premières expériences. Nous savons comment Dieu intervenait. Et ici, Paul, ça je l'ai souvent dit aussi, le fait que Paul soit mis dans le bateau pour aller à Rome, il allait à Rome, on l'a souvent dit, c'était l'exaucement d'une prière. Paul avait prié de tout son cœur pour qu'il puisse aller à Rome. Mais Dieu lui-même a décidé dans quelle mesure est-ce qu'il irait à Rome. N'est-ce pas, dans l'Épître aux Romains, chapitre 1er, au verset 9, il dit, Dieu que je sers en mon esprit dans l'évangile de son Fils, mes témoins que je fais sans cesse mention de vous dans ses prières. Mention de vous, demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin, par sa volonté, le bonheur d'aller vers vous. Car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis, ou plutôt afin que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est commune à vous et à moi. Quand nous sommes dans l'attente de l'exaucement d'une prière, est-ce que sommes-nous découragés ou sommes toujours confiants que Dieu va, que Dieu reste fidèle, que Dieu va exaucer la prière? La parole d'un ange, d'un messager, d'un ange de Dieu est digne d'être reçue. La parole d'un prophète de Dieu doit aussi être digne d'être reçue. Un jour, Samuel a parlé à Saül. Saül était roi. Et nous avons vu, il y a quelques jours, nous avons vu que le roi avait la copie des lois chez lui. Et Saül était un croyant. Et Dieu a oint Saül comme roi. Samuel était le prophète qu'il avait oint. 1 Samuel 10. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül et il le baisa. Et dit, L'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras deux hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin. C'est précis. Amen. À Tselsac. Ils te diront les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvés. Et voici, ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous et dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? Alors, du sépulcre de Rachel, de là, tu iras plus loin. Tu arriveras aux chaînes de Tabor, où tu seras rencontré par trois hommes montant vers Dieu à Bethel. Tout ça lui est dit à l'avance. Et pourtant, l'un, trois chevaux, l'autre, trois gâteaux de pain, et l'autre, une outre de vin. C'est précis. Ils te demanderont comment tu te portes. Et ils te donneront deux pains que tu recevras de leurs mains. Après cela, après le chêne de Tabor, tu arriveras à Gibea Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés du luth, du tambourin, de la flûte et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. Quand tu les verras, l'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux. Dites amen à ça. Si Dieu vous dit ça, ou il vous fait dire ça, n'essayez pas d'inventer des prophéties. Laissez Dieu prophétiser lui-même. Amen. Et tu seras changé en un autre homme. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Et t'amène à ça. Jésus dit, je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Ici, Dieu est avec toi. Puis tu descendras avant moi à Gilgal. Et voici, je descendrai vers toi quand tu seras à Gilgal pour offrir des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Samuel était la tribu de Lévite. Samuel pouvait offrir des sacrifices. Saül, il était de Benjamin. Il n'avait pas à offrir des sacrifices. Alors, c'est pourquoi Samuel lui dit, « Je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Tu attendras 7 jours jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi et que je te dise ce que tu dois faire. » Quand Dieu dit que tu attendras 7 jours, si le 7e jour arrive et que vous ne voyez rien, attendez, laissez. De toute façon, si cela ne se passe pas dans les 7 jours, la honte n'est pas à vous. Dites amen à ça. Voilà. Vous savez, quand Dieu vous demande de prier, d'aller annoncer la bonne nouvelle, vous allez annoncer la bonne nouvelle. Et puis quelqu'un vient de la foule, sort de la foule, avec une infirmité ou une maladie ou que sais-je, il vous demande de prier pour lui. Parce que vous en avez parlé dans votre prédication. N'ayez pas peur, priez pour lui, avec foi. Maintenant, si Dieu ne le guérit pas, ça, ce n'est pas votre faute. Dites amen à ça. Il faut savoir prendre Dieu au mot. Dire à Dieu, Seigneur, moi je fais ce que tu m'as demandé de faire. Moi je ne guéris pas, c'est toi qui guéris. Alors, il est là, j'ai prié pour lui, en ton nom, comme tu m'as demandé. Le reste, hein? Cela t'appartient. Et soyez calme. Et ne soyez pas près de votre téléphone toutes les 5 minutes pour téléphoner. Alors ça va mieux. Alors ça va. Vous partez, soyez certain que ça va mieux. Si 15 jours plus tard, personne ne te dit « je ne me suis pas mieux senti », tu dis ça, va arranger ça avec le Seigneur. Ce n'est pas moi, je me dédouane souvent de ça. Ce n'est plus mon problème. Je regarde ce que disent les Écritures, je le dis. Je dis ce que les Écritures disent. Je sais qui est mon Dieu. Je sais en qui j'ai cru. Et Paul, l'ange lui dit que vous ne mourrez pas. Et pourtant, quand l'ange lui a dit, ils avaient perdu toute espérance d'être sauvés. Un verset plus haut, on n'a pas lu. Alors, Saül, ici on lui dit ça, ce qu'il doit faire, donc il devait attendre 7 jours. Alors, il va partir. Dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, verset 9, Dieu lui donna un autre cœur. Ça, c'est ce qui avait été déjà dit, qu'il aura un autre cœur, n'est-ce pas? Tu seras changé en un autre homme. Et tous ces signes qu'on vient de lui dire s'accomplirent le même jour. Sans problème. Ça montre que Dieu est Dieu. Amen. Lorsqu'ils arrivèrent à Gibéa, voici une troupe de prophètes vint à sa rencontre. L'Esprit de Dieu le saisit et il prophétisa au milieu d'eux. On leur a dit qu'il prophétiserait, on lui a dit, et il l'a prophétisé. Mais alors, plus tard, quand il va arriver justement à Gilgal, lorsqu'il faudra attendre les 7 jours, la situation était. Il y avait l'ennemi, la situation était critique, mais il ne pouvait pas combattre avant que Samuel n'arrive. Parce que Samuel lui a dit, tu attendras, il faudra offrir des sacrifices d'action de grâce. 1 Samuel 13. On va sauter parce que le temps passe. Au verset 8, il est en face de l'ennemi. Il attendit 7 jours. C'est exactement ce qu'on lui a dit de faire, selon le terme fixé par Samuel. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal. Et le peuple se dispersait loin de Saül. Regarde un peu au coin de la rue, est-ce qu'il n'arrive pas? Toujours pas de Samuel. Alors, Saül dit... Quand il a vu le peuple se disperser, finalement, je vais rester seul. Le peuple, on pouvait encore lui pardonner parce que lui n'a pas eu tous les signes que Saül a eu, le peuple. Saül a eu ces signes-là, au lieu de dire au peuple, non, vous restez ici, c'était lui le roi. Samuel a dit qu'il viendrait, s'il ne vient pas, eh bien, ça, c'est entre lui et Dieu. Mais non, il a vu le peuple se disperser. Le peuple se dispersait loin de Saül. Ça, c'est ce que fait Satan. Vous voyez toute l'assemblée venir vous dire faire exactement le contraire de ce que Dieu vous a dit de faire. Mais, frère François, mais fais ci, mais fais ça. Alors, si vous suivez cela... C'est sur vous que ça va tomber. Alors Saül dit, ok, amenez-moi l'Holocauste et les sacrifices d'action de grâce. Dieu lui a laissé le temps d'offrir l'Holocauste. Comme il achevait d'offrir l'Holocauste, voici, Samuel arriva. Comment est-ce qu'il est arrivé? On ne sait pas. Il avait peut-être posté des éclaireurs là-bas, du côté de la brasserie, là-bas au fond, là-bas au bout, au téléphone. Est-ce que Samuel est là? Non, on ne le voit pas arriver. Bah. Écoutez, Dans quelques minutes, il sera 18h, on va passer au jour suivant. Bon, amenez-moi l'Holocauste. Le vieux Samuel a peut-être dû être retardé. Eh bien non, à peine il termine, Samuel arriva et Saül sortit au devant de lui pour le saluer. Dieu te bénisse, frère. Pour toute réponse, on lui demande, qu'as-tu fait? Saül répondit, lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas au terme fixé et que les Philistins étaient assemblés à Michmash, je me suis dit, il est très trompeur, ce « je me suis dit là ». Les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'Holocauste. Abraham dit, si vous allez en enfer, vous l'avez mérité. Si vous allez au ciel, vous l'avez mérité aussi. Si vous vous êtes abandonné entre les mains du Seigneur. Si vous allez en enfer, vous aurez lutté contre Dieu pendant toute votre vie. Parce que Dieu ne veut pas qu'aucun périsse et il veut que tous soient sauvés. Et donc, autrement dit, si vous allez en enfer, vous vous êtes fait violence en fait. Le monde dit c'est toujours le premier pas qui coûte. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'Holocauste. Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Voilà comment on manque de bénédiction. Avoir confiance en Dieu. Quand tout va mal, c'est une qualité. Vous êtes affamé, mais vous savez que Dieu, le Dieu qui nourrit les petits oiseaux, il vous nourrira quand même. Quand vous êtes au bord du précipice, vous savez qu'il est toujours avec vous. Qu'importe comment les choses évoluent, qu'importe ce que vos yeux voient, mais avancez toujours par la foi. Par la foi en la parole de Dieu. Que dit l'Écriture également? Dieu parle aussi par la Bible. Il y a la parole écrite, il y a la parole parlée. Il y a la création qui est l'effet de la parole. Les enfants hébreux étaient captifs. Ils étaient prisonniers, ils étaient captifs. Mais malgré qu'ils étaient captifs, ils avaient toujours confiance en Dieu. Ils avaient cette confiance dans les temps difficiles. Ils avaient cette confiance dans l'adversité. On les a menacés. Ou on leur a donné des ordres contraires à ce que le Dieu que eux servaient avait demandé. On leur a donné des ordres contraires et ils n'ont pas obéi à ces ordres-là. On les a enchaînés. On a allumé la fournaise. La fournaise a chauffé. Mais ils ont gardé confiance en Dieu. On les a même jetés dans la fournaise. Daniel chapitre 3. Verset 15. Maintenant, tenez-vous prêts et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psaltérion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main ? Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar : Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente. Ils ont dit peu, ils n'ont pas dit va, parce que Dieu ne leur a rien dit. Mais ils savaient que Dieu était capable de les délivrer. Maintenant, s'ils doivent être jetés dans la fournaise, gloire à Dieu. Mais Dieu, le fait qu'ils soient jetés dans la fournaise ne montre pas que Dieu est incapable de les sortir de là. Dieu est capable. Sache, sinon sache au roi que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Ils vont être jetés dans la fournaise. Nous savons ce qui est arrivé. Quatrième personne est arrivée au milieu d'eux. Vous lisez la suite. Et ils sont sortis de là, leurs liens ayant brûlé. On peut lire le verset 26. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit, « Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. » Après qu'ils aient été jetés dans la fournaise. Ici, la fournaise, on vient d'ouvrir. Et Shadrach et Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent et virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que leurs cheveux n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient point endommagés et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Dans Ésaïe 43, Dieu dit, si tu traverses le feu, il ne te consumera pas. C'est une promesse. Alors, Nebuchadnezzar va dire ceci au verset 28. Nebuchadnezzar prit la parole et dit, « Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui. » qui ont eu confiance en lui. Ayez confiance en Dieu. Abraham a eu confiance en Dieu, cela lui a été imputé à justice, et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu, le Dieu qu'ils servaient. Ils avaient confiance au Dieu qu'ils servaient. Le Dieu que vous servez doit vous inspirer confiance. Paul également, Paul a dit, un ange du Dieu que je sers. Ce n'est pas Dieu qui servait Paul, c'est Paul qui servait Dieu. Hein? Nous avons, beaucoup ont souvent un Dieu serviteur. Seigneur, donne-moi à boire. Seigneur, donne-moi à manger. Donne-moi ceci, donne-moi cela. Non, ici, c'est lui qui servait Dieu. Il se donnait corps et âme à Dieu. Il se donnait esprit, corps et âme. Et Dieu lui envoya un ange. Ils avaient gardé cette confiance en Dieu malgré les circonstances, malgré la captivité, malgré le fait que vous soyez captifs. Que vous soyez liés, ayez cette confiance. Au moment où vous devrez être déliés, ayez confiance que Dieu vous déliera. Ne prenez pas toujours le prétexte de cette faiblesse que vous avez, de ce lien qui vous tient. N'en ayez pas honte, ce n'est pas un problème. Mais sachez ceci, que les gens parlent ou pas, le Dieu que vous servez est capable de vous délier, de vous enlever ce lien. Je ne sais pas, vous êtes sujet à quoi, et que l'on commence à vous parler de l'enlèvement, et qu'on vous dise seul, la perfection entrera là-bas, montera là-bas. Si vous servez le Dieu véritable, ayez confiance que Dieu lui-même vous rendra prêt. Ceux qui vous lient sur la terre, ayez cette confiance, pas en vous, mais en Dieu, que le lien sera rompu. C'est ce qui me fait dire que je serai enlevé. Parce que ce qui me retient sur la terre, Dieu est plus que capable de le couper. J'ai confiance qu'il le fera. Je ne me vois pas aller à un autre endroit. Je ne me vois pas attendre autre chose, si ce n'est que l'enlèvement. Amen. C'est cette confiance que j'ai en lui qui me fait dire que j'irai. Parfois, les choses vont mal. Parfois, on tremble là où il faut montrer la foi. Parfois, on perd l'équilibre, mais Dieu est celui qui nous redresse. Dieu est celui qui nous a fermés. Vous savez, Pierre, il avait ses faiblesses, mais Dieu l'a redressé. Dieu l'a redressé. Nous devons avoir confiance en lui. Nous devons avoir confiance en sa parole. Ce que sa parole dit, c'est vrai. Dans le psaume 34, il nous est dit, j'espère que vous y croyez, ce que dit le psaume 34. C'est David qui le dit. David, un homme de foi. Verset 7, il dit, « Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Et il le sauve de toutes ses détresses. Toutes. Il ne l'en laisse pas avec une seule. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Et il les arrache au danger. Sentez, voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. C'est lui mon refuge. C'est en lui que je me cache. Il ne manque jamais à sa parole. Ce qu'il a promis, il le fera certainement. S'il a dit qu'il interviendrait en ma faveur, il interviendra certainement. Quand Israël a quitté l'Égypte, il avait dit à Moïse, « Je suis descendu pour délivrer mon peuple. » Est-ce qu'il a délivré ou non ? Il a délivré. Malgré que Israël se soit plaint, disant à Moïse que tu nous as rendus odieux aux yeux de Pharaon. Pharaon leur a rajouté des tâches, leur a rajouté du boulot. Leur situation était encore pire avant que Moïse aille parler à Pharaon. Mais il fallait avoir confiance que Dieu les sortirait de la griffe de Pharaon. Avoir confiance que Dieu est plus grand que Pharaon. avoir confiance qu'il est plus grand que Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar qui se croyait le chef du monde, Nebuchadnezzar défie les chrétiens. Il leur demande, quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Quand un roi, un conducteur, en arrive à ce genre d'affirmation, sachez que c'est le début de sa fin. Quand il se croit pour Dieu, tant qu'il est humble et qu'il reconnaît que c'est Dieu qui l'a placé là, ça va. C'est valable pour un roi, c'est valable pour un prédicateur. Il y a de ces prédicateurs qui se présentent finalement comme étant au-dessus de Dieu presque. J'ai déjà entendu des prophéties du genre, un tel va mourir avant la fin de l'année. S'il ne veut pas mourir, qu'il vienne me voir. Toi, qui es-tu? Toi, qui es-tu pour que toi, on vienne te voir pour qu'une telle prophétie ne se réalise pas? C'est ça. Il dit à Moïse, il dit, je vais le délivrer, je ne vais pas me contenter de le délivrer, mais je vais le faire monter dans un bon et vaste pays où coule le lait et le miel. Alors, il va les sortir de là. À la mer Rouge à affronter. Seigneur, est-ce que ta promesse reste toujours valable? Elle est toujours valable. C'est ainsi dit le Seigneur. Dieu ouvre la mer Rouge. Ils traversent. Ils marchent dans le désert. Ils ont soif. Les eaux qu'ils boivent sont amères. Parfois, après une délivrance, c'est l'amertume que vous rencontrez. Vraiment amère. Ah, est-ce que ça, c'est vraiment une assemblée de Dieu? Est-ce que ce sont vraiment des chrétiens? Malgré l'amertume, ayez confiance en Dieu. Ayez confiance en Dieu. Vous continuez le chemin. Vous avez faim. Ah, nous nous souvenons des poireaux et des oignons et toutes ces choses. C'est bien, mais qui a créé les poireaux et les oignons? C'est Dieu, n'est-ce pas? C'est pas l'Égypte. Alors, laissez l'Égypte loin derrière vous. Ayez toujours cette confiance en Dieu. Il y a Amalek sur le chemin. C'est dans Exode 17, ça. Le combat va faire rage. Moïse va prier. Josué, je crois, Aaron, je ne sais plus, doivent lui tenir les mains, les bras. Quand les bras de Moïse baissaient, Israël perdait la bataille. Il ne faut pas que vos bras baissent. Dites amen à ça. La Bible dit, élevez vos mains. C'est la croix, hein, ça. Exode 17. C'était Our. Verset 8. Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Quand Dieu dit à Moïse, dans Exode 3, je vais le conduire pour le faire monter dans un bon et vaste pays, il ne leur a jamais dit qu'ils allaient devoir combattre dans le désert. Dites amen à ça. Il ne leur a jamais dit qu'ils allaient devoir faire face à la soif parfois, là où il n'y a pas d'eau. Il ne leur a jamais dit qu'ils allaient devoir trouvé que les eaux de l'autre côté étaient des eaux amères. Dieu le savait. Eux ne le savaient pas. Alors, malgré les eaux amères, malgré les combats contre Amalek, lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Quand on croit que parce que Dieu est avec nous, le combat est très facile. Dieu veut que nous combattions réellement. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Combien de temps ça a pris, je ne sais pas, mais suffisamment longtemps où il devait rester dans cette position-là. Et finalement, Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Et ils vont continuer le chemin. L'Écriture, ou plutôt la parole parlée a dit, « Je les conduirai dans un bon pays, n'est-ce pas ? Dans un bon et vaste pays où coule le lait et le miel. » Ils arrivent à ce pays-là. Le constat des espions, c'est quoi ? Comme cela a été dit. Nombre chapitre 13. On va commencer au verset 26. À leur arrivée, les espions, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël, à Kadesh, dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée et ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. Eh bien, il est comment ? Eh bien, il est exactement comme cela a été dit. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Maintenant, la Bible, en ce qui nous concerne, et c'est pour cela que nous sommes ici ce soir, nous attendons la venue du Seigneur. Nous sommes dans l'attente de l'enlèvement. Une chose est sûre, c'est que l'enlèvement aura lieu comme cela a été dit. Amen. Cela ne changera pas. Ça se passera exactement comme ça. Comme cela avait été dit. Maintenant, les difficultés que nous rencontrons, Il ne nous en est pas dit, hein, dans 1 Thessaloniciens 4. Ces douleurs d'enfantement que nous ressentons, il ne nous en est rien dit dans 1 Thessaloniciens 4. Un jour, il y a une sœur qui m'avait envoyé des cantiques du frère Antonio. Alors, je me suis rappelé le temps qu'on passait avec le frère. Je lui ai juste écrit, je lui ai dit, à cette époque-là, on avait tous la conviction que l'enlèvement, c'était demain. Alors, il me dit, effectivement, nous pensions tous que l'enlèvement, c'était demain. Quand j'ai cru, je ne pensais pas qu'on n'allait pas arriver en l'an 2026. Pour moi, l'enlèvement, je ne sais pas pourquoi, je disais, l'an 2000, ça doit être la limite. Ça, c'est ce que moi, je me suis dit. Et nous venons de voir que ce qu'on se dit, hein, avec l'expérience de Saül, nous venons de voir que ce qu'on se dit soi-même, ce n'est jamais ça. Moi, je croyais que c'était l'an 2000. Pour d'autres, dans le message, ah, quand telle sera présidente aux États-Unis, alors c'est vrai, c'est vraiment la fin. Eh bien, non. Une femme s'est présentée comme présidente deux fois, ça n'a pas été. Une autre s'est présentée par après, ça n'a pas été. Habillée en mauve, en vert, ils ont sorti toutes les citations possibles. Beaucoup, la confiance s'est effritée. Si on va même plus loin encore, moi je n'étais pas encore là, peut-être que le frère là-bas, lui, l'avait déjà peut-être cru en ce temps-là. En les années 70, pour beaucoup, l'année 1977, c'était la fin. Il y en a qui ont même déchiré leur diplôme. Parce qu'ils allaient être enlevés, ils n'avaient plus besoin de l'enlèvement. Vous savez, de 77 à 2026, 2022, l'année prochaine c'est 2027, l'année prochaine ça va faire 50 ans. 50 ans de différence. Mais beaucoup se sont découragés. Quand ils ont vu que 77 a sauté, bon, ils se sont dit comme la manière dont il avait calculé le frère, il avait calculé 80, bon, ils s'étaient trompés de 10 ans. Ils ont dit, bon, ce sera en 87. Ils ont entendu 87. Surtout que 88, ça allait faire 40 ans après qu'Israël soit une nation, à nouveau. Donc, en 88, il y a un frère qui disait, il doit absolument se passer quelque chose en 88. Eh bien, il ne s'est pas passé ce que lui, il attendait qu'il se passe. Gloire à Dieu. Dieu a son temps. Dieu a les circonstances. Est-ce que pour cela, parce que 77 ou 87 et 88 sont passés, est-ce que votre confiance est entamée? Moi, j'ai toujours confiance qu'il y a l'enlèvement. L'enlèvement aura bel et bien lieu tel que cela a été écrit. Si ça ne se passe pas ce soir, ben ça se passera demain. Alors quand je dis si ça ne se passe pas ce soir, Satan vient me dire, est-ce que tu es prêt d'abord pour ce soir? Que je sois prêt ou que je ne sois pas prêt, c'est l'affaire de Dieu. Je sais que moi je fais tout mon possible, mais faire tout mon possible ne veut pas dire que je fais tout très bien. Je flanche encore. Mais moi, j'ai confiance en lui, que lui m'enlèvera. Il a bien enlevé Enoch. Bon, ça va, Enoch, on dit que lui marchait avec Dieu et on ne dit pas ce qu'il a fait de mauvais ou je ne sais pas. Élie, Jacques dit, c'était un homme de la même nature que nous. Oh, si vous voulez connaître la nature de Jacques, allez un peu dans les évangiles, voir. Jacques, ça discutait fort hein, avec eux, entre eux. C'est moi le plus grand. Leur maman est même venue dire, parce que moi, un de mes fils soit à ta gauche, l'autre à ta droite dans ton règne. C'est Jacques. Jacques et Jean, ils ont demandé le feu du ciel pour que ça tombe sur les Samaritains. Alors, il dit que Élie, c'était un homme de la même nature que nous. Je dis, ah, Jacques aussi, ça lui arrive des crises de colère comme moi. C'est très bien. Eh, Jacques, il est bien heureux là, hein, comme disent les catholiques. Il était sûr de l'enlèvement. S'il y a quelque chose dont je suis certain, c'est l'enlèvement. Es-tu prêt? De moi-même, non, mais Dieu va m'apprêter. Et il sait comment m'apprêter. Il m'enverra des circonstances qui devront m'apprêter. Des circonstances qui feront que j'abandonne certaines choses ou que je prenne certaines choses que je n'arrive pas à prendre. Ça dépend selon les besoins que j'ai pour être enlevé. Et ce qui vous arrive, eh ben, c'est dans l'optique de l'attente de l'enlèvement. C'est afin que vous réagissiez exactement comme de manière à être tel que vous devez être au moment de l'enlèvement. Les épreuves que Dieu nous envoie sont des épreuves appropriées. Que chacun se charge de sa croix. Elles sont différentes, les croix. Les difficultés que nous rencontrons sont différentes. Mais tout cela, c'est parce que nos soucis, nos manquements sont différents. Là où moi je suis faible, vous, vous êtes peut-être fort. Là où vous êtes fort, moi je suis faible. Là où vous êtes faible, moi je suis fort. Et ainsi de suite. Paul dit aux Thessaloniciens, on va terminer. Il dit, c'est d'après la parole du Seigneur. Alors, si c'est d'après la parole du Seigneur, je suis sûr d'une chose, il en sera comme il a été dit, comme il a été écrit. 1 Thessaloniciens 4, 13, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont morts, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Ils étaient affligés. Nous sommes souvent dans l'affliction. Mais ces afflictions-là servent à nous préparer. Maintenant, si nous devons mourir, ces afflictions-là ont servi juste avant notre mort. Et nous sommes morts en Christ. Dieu va faire de sorte que nous soyons en Christ au moment de nous coucher. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. D'après la parole du Seigneur, c'est ça que je cherchais. D'après la parole du Seigneur. Donc, c'est ainsi dit le Seigneur. Bon. Ce que Dieu dit, c'est ce qui se fait. C'est ce qui arrive. Donc, il en sera fait comme il est dit. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Allez dire à Paul qu'il n'est plus vivant. Ce n'est pas grave, mais il sait une chose, il sera ressuscité et il sera enlevé. Mais il sait une chose aussi, qu'au moment de l'enlèvement, il sera vivant. Pourquoi ? Parce qu'il sera ressuscité. Malgré les souffrances, les afflictions, les souffrances par lesquelles nous passons, hein, ces choses-là arrivent dans un but. Hein. Romains 8, n'est-ce pas ? Il dit ceci. L'apôtre nous exhorte, toujours Paul, « J'estime que les souffrances du temps présent ne saurait être comparé à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Il en sera comme il a été dit. Dieu ne peut pas mentir. Impossible qu'il mente. Notre attente, elle n'est pas vaine. Nous avons cette confiance que nous partirons certainement. C'est pour cela que nous sommes ici ce soir. Nous nous préparons à ce départ-là, à ce voyage-là, dans les airs. Et nous irons, pour ceux qui s'y attendent, ceux qui auront aimé son avènement, ils iront certainement. Prions le Seigneur. Ça peut aller mal. On jette les agrès. Ces choses qui nous alourdissent dans notre marche. Les excès du manger et du boire. Les soucis de la vie. Autant d'agrès dans nos vies. Dans notre navire. ses inquiétudes. Personne ne peut rajouter une coudée à sa vie par ses inquiétudes. Personne. Mais nous avons cette confiance en Dieu qui ne nous laissera pas tomber. Nous savons que cette terre sera rasée. Mais nous avons cette confiance que Dieu nous sortira d'ici avant qu'elle ne soit rasée. Nous avons confiance en Dieu que ces choses ne nous arriveront pas. Te remercions, Seigneur, parce que tu nous as montré toutes ces choses, tu nous as montré que tu ne peux pas mentir, que ta parole est la vérité. Que ce que tu dis s'accomplit. Abraham a eu cette confiance malgré qu'il avait le corps complètement usé. Malgré que Sarah n'était plus en état d'enfanter. Mais il a eu confiance en Dieu. Que cette confiance ne soit pas entamée par les souffrances, par les difficultés, par les obstacles, par les soucis. Que cette confiance demeure intacte et que nous ayons toujours cette assurance comme nous l'avions au commencement. Bénis tes enfants. Tu sais ce qui nous a appesanti à chacun. Veuille nous alléger. Et si nous semblons sombrer, ouvre nos yeux comme tu as ouvert les yeux du serviteur du prophète, voyant combien cet ange glorieux campe autour de nous. Cela nous redonnera du courage sur le chemin. Merci encore pour le temps que nous avons eu ce soir. Que tu bénisses tes enfants ici, présents. Que tu raccompagnes ceux qui doivent rentrer, soit avec ceux qui vont rester. Que ta grâce nous soit favorable. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous t'avons ainsi prié. Amen. Dieu bénisse.